Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique consacrée à la religion, une édition en partenariat avec la revue Questions internationales dont le dernier numéro a pour titre Le réveil des religions. Réveil ou retour, le constat est là, les religions sont de plus en plus présentes sur la scène internationale. Certaines justifient la violence, d'autres aspirent avant tout à la paix et militent en ce sens. La religion ou les religions comme force configuratrice de l'histoire et donc comme actrice géopolitique. Depuis 1945, nombre de conflits présente une forte dimension religieuse et même si la religion n'est peut-être pas la seule explication des violences, lorsqu'elle divise les peuples, l'intensité des conflits augmente. Les religions de plus en plus visibles dans l'espace et dans la vie publique. Comment les religions sont-elles entrées dans le tumulte du monde? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Roselyne Netron, professeure de droit à l'université Paris-Sorbonne et Roselyne Netron qui a dirigé un ouvrage à paraître cette semaine, La laïcité dans la tourmente, aux presses de la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Portier, vice-président de l'école pratique des hautes études et membre du groupe Société Religion Laïcité au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et François Mabi, chercheur statutaire au groupe Société Religion Laïcité au CNRS et co-directeur de l'Observatoire international du religieux à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Les faits sont nombreux qui témoignent de l'importance croissante de la question religieuse dans la vie internationale. Actes terroristes menés au nom de l'islam, le conflit israélo-palestinien, les conflits au Proche-Orient opposant chiites et sunnites, le traitement réservé aux minorités religieuses chrétiennes, les condamnés à mort au Pakistan au motif de blasphème, le poids des évangéliques au Brésil et leur contribution à la victoire de Bolsonaro. Réveil, retour ou plus simplement visibilité accrue de la question religieuse ou encore grille de lecture nouvelle des événements internationaux. Comment expliquer ce retour alors que l'on pensait que la modernité avait induit la disparition sociale et surtout politique du religieux? Philippe Portier.
Oui, ce que vous dites est tout à fait juste, je crois. Il y a une réaffirmation du religieux aujourd'hui, et une réaffirmation du religieux qui tranche avec ce que nous avions connu dans les années 1950, 1960, 1970. Alors, il est vrai qu'à cette époque, le religieux était là, mais les modèles d'achèvement étaient très marqués, au fond, par l'idée de sécularisation. Cette idée que le politique n'avait pas besoin de l'assise du religieux pour se développer, et nous en avions un clair témoignage, en particulier dans les nationalismes arabes, qui tout en faisant de temps à autre référence aux référents islamiques, entendait construire l'État sur le principe de sa propre souveraineté. Nous n'en sommes plus là à partir de la fin des années 1970. Il y a une date, 78, 79, où l'on voit dans tous les univers religieux se réaffirmer cette idée que le religieux, dans une période de crise du politique, est nécessaire à la fois pour apporter du sens, pour apporter du lien aux structures politiques qui alors se mettent en place.
Roselyne Netron.
Je crois que ça apparaît aussi, et c'est un des éléments qu'on voit se développer, à travers les revendications en termes de droit. C'est-à-dire que on a vu très longtemps évoquer les questions religieuses à travers la liberté des convictions, qui impliquait le droit d'avoir des convictions religieuses ou de ne pas en avoir. Et on invoquait l'égalité devant la loi, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, on invoque de plus en plus la liberté religieuse, qui donc met un petit peu à l'écart le droit de ne pas avoir de convictions religieuses et qui permet à chaque religion de s'affirmer comme communauté, en quelque sorte comme interlocuteur à l'intérieur de l'État. Et donc, de fait, au lieu de se fonder sur le principe d'égalité, elles se fondent sur le principe de non-discrimination. Et donc, elles invoquent des discriminations pour ensuite revendiquer des droits. Et donc, ça, on a vu aussi, et c'est ça qui est intéressant, et ce qui m'intéressait dans le propos de Philippe Portier, c'est qu'on l'a vu apparaître à peu près à la même époque, c'est-à-dire dans les années 70-80.
François Mabille, après ça, on reviendra peut-être sur la question de ces années 70-80 pour comprendre comment le virage s'est opéré et quelles en sont les raisons. François Mabille.
Oui, mais je repartirai quand même de ce tournant-là. Je pense qu'il y a une plus grande visibilité à partir, effectivement, pour le catholicisme de l'élection de Jean-Paul II. Mmh. Et bien évidemment, le lien avec la Pologne s'affirme immédiatement. Et puis, de la révolution iranienne, quelques mois plus tard, en 1979. Donc là, on a une visibilité accrue avec des revendications qui sont beaucoup plus fortes, mais qui ne doivent pas faire oublier que nos sociétés, et notamment au niveau international, étaient déjà travaillées par des acteurs religieux sans doute moins visibles. Je pense aux ONG. Mmh. Lorsque vous regardez l'histoire des ONG, vous voyez bien que dès 1945, enfin 1950, on va dire, un certain nombre d'associations sont créées sur une base religieuse et participent finalement à ce grand mouvement qui est lancé autour de l'ONU. Mais ce que vous disiez, madame, est juste. C'est-à-dire qu'on voit bien également, quand on travaille sur les ONG, qu'il y a une nouvelle phase qui s'ouvre au début des années 80. Mmh. Finalement, ces ONG confessionnelles, très souvent chrétiennes, la plupart d'entre elles étaient chrétiennes initialement, participer au mouvement de construction d'une société internationale et donc légitimer par leur présence les organisations onusiennes au sens large, mais à partir des années 80, ajoutent à leurs revendications des thématiques sur un ton beaucoup plus protestataire. Et notamment centré sur les questions de liberté religieuse, liberté de conscience ou des points plus spécifiques.
Alors juste une précision peut-être sur la question des ONG parce qu'elle me semble importante. Elles revendiquaient une religion, ces ONG, ou bien
Elles s'inscrivent dans le mouvement onusien au titre des droits de l'homme. Au sein des droits de l'homme, la liberté religieuse. Donc vous voyez que dans un contexte de guerre froide pour les ONG chrétiennes et les ONG catholiques, bien évidemment, il y a eu des revendications par rapport aux libertés qu'elles pouvaient avoir ou ne pas avoir, en l'occurrence, dans les pays de l'Est. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on voit que s'ajoutent des thématiques plus spécifiques qui peuvent entrer en contradiction avec les actions revendiquées par l'ONU. Prenez la question de l'aide au développement. Dans les années 50, vous avez une parfaite harmonie entre les approches des ONG confessionnelles et, grosso modo, les politiques demandées par l'ONU, la FAO, par exemple. À partir des années 80, vous voyez bien que sur ces questions-là, il y a une dissociation, notamment sur les questions démographiques, et ça mènera, par exemple, au mouvement qu'on a vu en 1995 avec la conférence du Caire.
Alors, 1979, c'est la révolution en Iran. On célèbre cette année le 40e anniversaire de cette révolution. Vous évoquiez donc, Philippe Portier, ce tournant de la fin des années 70, début des années 80. Je suppose aussi que la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS a contribué aussi, probablement, vous allez nous le dire, à ce renouveau religieux. Et vous évoquez l'idée d'une crise de l'État. Alors, est-ce que finalement, parce que crise de l'État, le religieux a voulu prendre le dessus, tout en sachant par ailleurs qu'il y a toujours eu une sorte de concurrence entre les religions et les États, les religions étant beaucoup plus anciennes que les États modernes. Philippe Portier.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut dépasser le seul trait conjoncturel que vous venez de signaler, 78, bloc de la foi en Israël, 79, on le voit, octobre 78, Jean-Paul II affirme déjà l'idée qu'il faut ouvrir toute grande les portes de les vastes champs, dit-il, de la culture, de la politique, de la société, à l'influence régénératrice de la foi. Nous sommes là, en effet, dans un moment qui est un moment tout à fait crucial. Mais ce moment ne vaut, me semble-t-il, que sur le fondement d'une reconfiguration du rapport à la modernité. Dans un premier temps de notre histoire, la modernité est une modernité qui se veut d'abord séculière. Alors, le religieux existe, mais il existe comme force subordonnée à l'État. L'idée que le religieux est une ressources de sens au service d'un État souverain. L'État est emporté par une mystique du progrès, de la raison, cette idée que la société doit se fonder d'abord sur le principe du politique, même si le religieux apparaît comme un auxiliaire des forces gouvernementales. À partir des années 1970-1980, on entre dans un deuxième modèle de la modernité, qu'on appelle parfois le modèle de la seconde modernité, chez Ulrich Beck, le modèle de la modernité réflexive, où les modernes entrent en difficulté avec leurs propres ambitions, avec leurs propres promesses.
C'est-à-dire ?
L'idée de progrès, l'idée de raison ne font plus sens parce que toute une logique du risque apparaît dans l'histoire. On se rend compte que l'histoire ne prend plus la forme messianique qui était la sienne auparavant, qu'elle est travaillée par des crises que l'État seul n'arrive pas à résoudre. Alors c'est précisément dans cette béance que le religieux se met en place, qu'il intervient sur le fondement d'ailleurs d'une recomposition de ses propres normes, de ses propres principes. Ce qui caractérise le religieux dans les XXe siècle, c'est souvent le fait qu'il abdique sa dimension intransigeante, sa dimension intégraliste, et qu'il se fait finalement de plus en plus accueillant au principe de la modernité. On le voit avec Vatican II. Par exemple, des textes comme Gaudium et Spes, comme Dignitatis Humanae, ouvrent toutes grandes les portes de l'Église au principe de la démocratie constitutionnelle, en particulier le principe de la liberté religieuse. Mmh. On s'ouvre à la dimension d'autonomie de la modernité, et à partir des années 1970-1980, on voit qu'il y a dans tous les mondes religieux un tournant théologique qui s'impose, avec cette idée que l'État, que la liberté, que la raison ne doivent plus faire sens, et qu'il faut retrouver cette idée, comme le disait Sayed Qutb, l'un des promoteurs des frères musulmans, que la religion est désormais la solution. Et on a là affaire à un double mouvement, au fond, un mouvement de dévaluation du politique à la faveur de la crise de la première modernité, et un mouvement de reconfiguration du religieux à la faveur de cette idée suivant laquelle le religieux serait aujourd'hui, dans un monde en doute sur ses propres promesses, la solution des difficultés du temps.
Alors, je ne sais pas, Roselyne Lettron, si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Philippe Portier. Après ça, je rebondirai sur la religion et solution pour parler de l'islam.
Je dirais le religieux comme accueillant la modernité, en quelque sorte. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans l'affaire, c'est le poids considérable du modèle américain de rapport entre les religions et l'État, qui est en train de se développer au point que l'Europe est un petit peu un terrain d'affrontement entre le modèle américain et le modèle, je dirais, continental et français de laïcité. Pourquoi ? Parce que les finalités sont différentes. Dans le modèle américain, l'idée est qu'il faut effectivement, selon la formule de Jefferson, établir un mur entre l'État et les religions, mais il s'agit, la finalité en réalité, c'est de protéger les religions contre les ingérences de l'État. Ce sont des colons qui étaient persécutés pour des motifs religieux, et ils n'ont qu'une seule idée, c'est de protéger leur liberté religieuse contre les ingérences de l'État. Ce modèle tend aujourd'hui à se développer considérablement. On le voit, par exemple, dans les contentieux qui existent au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. On voit, pour prendre qu'un exemple, dans l'affaire sur la loi française de dissimulation du visage, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Eh bien, dans cette affaire, la requérante était défendue par un cabinet britannique sur la base d'un droit très largement inspiré du droit américain. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, et ça s'oppose directement à une vision, je dirais entre guillemets française, mais pas uniquement, hein, qui a cours sur le continent, et qui vise au contraire à protéger l'État contre les religions, et qui est la construction même de la loi de 1905 en France, puisqu'il s'agissait surtout à l'époque de lutter contre l'influence des congrégations dans l'enseignement, dans l'armée, etc., etc. Et donc, on a actuellement une sorte de terrain d'affrontement entre ces deux conceptions, et le modèle américain a cet avantage de se présenter comme particulièrement attractif parce que respectueux des droits de l'homme, parce que dans la ligne du principe de non-discrimination et donc d'affirmation de sa singularité religieuse. Et donc il y a, je dirais, un conflit qui est aussi un conflit culturel, au-delà du conflit religieux.
On y reviendra peut-être, Roselyne Lettron, sur ce que vous évoquez, c'est égalité versus non-discrimination.
Un peu, hein, oui.
Voilà.
Un peu.
François Mabille.
Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Madame Lettron à l'instant, il y a une autre date qu'on pourrait citer, c'est celle de 1998. Avec, aux États-Unis, la promulgation de l'IRF Act, International Religious Freedom Act, qui fait entrer la question de la liberté religieuse dans la politique étrangère américaine. On se retrouve exactement avec ce que vous venez de dire au niveau européen, c'est-à-dire les démocrates estiment à ce moment-là qu'il n'est pas normal que les États-Unis aient pour partenaire des États qui ne respectent pas la liberté religieuse, alors que cette même liberté religieuse est constitutive de l'identité politique américaine. Et donc ils vont plaider pour que cette question-là soit intégrée dans la politique étrangère américaine. Il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait qu'il y ait des mesures incitatives ou au contraire punitives à l'encontre des États qui ne respectaient pas la liberté religieuse. En tout état de cause, ce que l'on voit à ce moment-là, c'est que pour la première fois, les questions religieuses intègrent la politique étrangère. Et il y aura à la suite d'autres initiatives différentes. La Turquie et l'Espagne vont proposer un dialogue pour les civilisation, je dirais en réponse implicite à Huntington, la France va intégrer avec son pôle religion au sein du ministère des Affaires étrangères toute une réflexion et un type d'action spécifique dans ce domaine-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, mais une évolution qui se fait en réaction à la politique américaine et dont la fine pointe est représentée par les débats juridiques dont vous venez de parler, effectivement.
Philippe Portier, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez précédemment, la religion comme solution pour aborder la question de l'islam. Aujourd'hui, c'est de toutes les religions sur la planète, finalement, d'une certaine manière, la religion la plus agitée. Par son expansionnisme, par ses divisions internes, par ses franges extrémistes qui nourrissent le terrorisme international. Quelques mots peut-être sur ce retour de l'islam. Il s'agit d'une certaine manière aussi d'un rejet très puissant et très fort de l'occidentalisation, de la colonisation. Donc finalement, entre les religions, la progression et le réveil s'inscrivent sur des registres assez différents.
Différent parce qu'on a affaire à des mondes religieux différents qui traînent derrière eux, en effet, toute une série de reliquats historiques, mais avec des points communs qui nous permettent d'analyser la scène internationale de manière un peu globale tout de même. Je vais revenir à votre question, bien sûr, mais il faut bien voir que nous sommes confrontés dans le monde à autre chose qu'un simple réveil du religieux. Et plutôt que de parler de déséculariser ou de réenchantement du monde, je préfère, quant à moi, mettre en évidence le concept de polarisation. Cette idée que dans toutes les sociétés, et c'est un peu la difficulté du moment, nous avons la constitution d'un champ marqué par deux grandes tendances de l'opinion publique. Une tendance qui est marquée par le principe, en effet, de réenchantement, avec des réaffirmations très fortes de la foi, pouvant aller parfois jusqu'à l'exaltation de la violence, ou de la radicalité, et puis une autre tendance qui est une tendance à la sécularisation, en particulier dans les milieux les plus éduqués, les plus aisés, les plus ouverts, au fond, au transfert d'expériences, à l'échange des civilisations. Alors, c'est un premier point qui nous permet de relativiser, en effet, l'idée d'un réveil uniforme, homogène du religieux. Le second point, c'est que tous les mondes religieux sont travaillés par des pluralisations, des polarisations internes, et que si l'on repère, en effet, fait au sein de l'islam des mouvements très radicaux, on en voit aussi à l'intérieur des autres mouvements religieux, du côté juif, avec les ultra-orthodoxes, du côté catholique, avec des mouvements que j'appelle, quant à moi, le mouvement des catholiques d'identité, qu'on appelle parfois les catholiques identitaires, du côté protestant, avec toute une tendance évangélique qui entend considérer que Dieu, au-delà de l'État, est la solution des maux contemporains. Alors, ayant dit cela, il ne faut pas, bien sûr, négliger le fait qu'un certain nombre de mondes religieux entrent en situation de conflit avec d'autres mondes religieux. Bernard Lewis a bien montré, en effet, par exemple, que l'islam contemporain était très marqué par un conflit avec le monde occidental et que l'un des ressorts de la radicalité musulmane aujourd'hui reposait sur cette idée que l'Occident, c'est la décadence, le déclin, le mal. Tout cela trouve son origine déjà au XIXe siècle, lorsque l'islam sent que face à la modernité, elle perd du terrain. Tout cela est réinvesti ensuite par les théologies radicales, celle d'un Hassan al-Banna, par exemple, fondateur des Frères musulmans, Sayed Qutb, qui prendra sa suite et qui estime que ce qui caractérise l'Occident, c'est en effet la décadence et qu'il faut face à cette décadence, faire valoir la loi de Dieu, la seule loi de Dieu qui compte, avec cette idée corrélative que les mouvements nationalistes arabes sont des mouvements traîtres à la cause musulmane parce qu'ils ont embrassé les idéaux de l'Occident. Et on peut en effet, je crois, envisager le retour à l'islam à la fois sur le plan interne comme une résistance, comme une réaction à l'échec des nationalismes arabes, mais aussi sur le plan international, comme une volonté d'affirmer une ère culturelle dans sa spécificité face à ce que les radicaux islamiques appellent la décadence de l'Occident.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Philippe Portier, Roselyne Létron et François Mabille après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la religion pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Question Internationale, dont le dernier numéro a pour titre Le réveil des religions. Nous retrouvons nos invités, Roselyne Lettron, professeure de droit à l'université Paris-Sorbonne. Roselyne Lettron qui a dirigé l'ouvrage La laïcité dans la tourmente aux presses de la Sorbonne. Philippe Portier, vice-président de l'école pratique des hautes études et membre du groupe Société Religion Laïcité au CNRS. Et François Mabille, chercheur statutaire au groupe Société Religion Laïcité au CNRS et co-directeur de l'Observatoire international du religieux à l'IRIS. Nous avons évoqué dans fin de première partie de l'émission, Philippe Portier soulignait un point commun finalement aujourd'hui entre toutes les religions que je rappelle, cette polarisation finalement des sociétés avec d'un côté le réenchantement. Philippe Portier, je parle sous votre contrôle et certainement les termes utilisés ne sont pas aussi magnifiques que les vôtres. Réenchantement d'un côté et sécularisation des milieux éduqués, donc finalement c'est un peu le ciment entre toutes ces religions. Roselyne Lettron, vous souhaitiez réagir à ce qu'a dit Philippe Portier, et
oui,
même chose pour François Mabille.
Je crois que nous sommes d'accord évidemment sur le fait qu'il y a non pas un radicalisme religieux, mais des radicalismes religieux, et que chaque religion a d'une certaine manière ses propres radicaux. Maintenant, ce qui rend l'islam peut-être plus visible, c'est d'abord l'existence de diasporas importantes, qui vont donc exporter ce radicalisme religieux et en faire un élément de prosélytisme dans les États où ces diasporas sont installées. Et puis peut-être aussi sur le plan purement idéologique, le fait que l'islam ne connaisse pas ou très peu l'idée de séparation entre l'Église, la religion et l'État. Et donc l'idée même de sécularisation est quelque chose qui est, je dirais, mal perçu comme un élément d'importation occidentale, en quelque sorte. Donc il y a cet aspect-là. Et évidemment, ça va de pair avec le fait que la revendication à partir du concept de liberté religieuse vient à gommer l'idée de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire que l'État est appelé pour protéger la liberté religieuse et non plus pour s'abstenir d'intervenir. Ce qui fait que, évidemment, ça vient en quelque sorte à l'appui de ces revendications.
François Mabille.
Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Philippe Portier. Il y a deux points très intéressants à souligner dans ces rapports entre religion et politique. Le premier, c'est que les religions s'inscrivent sur le long terme. Et on voit bien là que le 19e et le 20e siècle, dans la perspective de progrès que vous évoquiez, Philippe, la construction des États, la thématique du progrès, sont aujourd'hui confrontés au phénomène de disruption, à l'accélération du temps. Et face à ce problème-là, les religions fournissent, elles, un imaginaire de continuité qui explique également que face à la déshérence idéologique, elles puissent apparaître comme un espace de recours. Et puis il y a un deuxième aspect qui me semble important et que vous avez souligné, vous évoquiez construction de l'État, processus nationaliste. Là, les religions entrent directement en contradiction avec ces processus puisque leur approche est une approche qui est supranationale. Il y a toujours la question de l'appartenance identitaire qui prime pour le religieux et qui s'exprime d'une autre manière que par des appartenances nationales. Et là encore, on voit bien comment religion et politique peuvent ou être articulées ou au contraire s'opposer. Et je pense que du coup, on voit mieux comment aujourd'hui ces phénomènes apparaissent. Je dirais qu'il y a au moins trois dimensions. Il y a la manière dont les religions peuvent apparaître comme des discours de substitution ou au contraire la manière dont les politiques, car brésiliens, peuvent se saisir du discours ou des symboles, des valeurs religieuses comme finalement espace de ressources. Et puis il y a un troisième aspect qu'on n'évoque pas, mais je dirais le travail, les relations que les religions tentent d'avoir entre elles et qui peuvent également avoir un impact sur la société internationale. On le voit bien avec la dernière visite du pape au Maroc, qui entre directement en interaction avec ce que vous disiez il y a un instant.
Alors, pour rester, Philippe Portier, sur la question politico-religieuse, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à une politisation des religions et à une spiritualisation du politique ?
politisation du religieux, il faut évidemment, de ce point de vue, s'inscrire dans la longue durée. C'est Max Weber qui disait que le religieux, ça n'est pas simplement la relation que l'homme peut avoir avec son propre salut. Dans le fait d'affirmer une relation avec son propre salut, on reconfigure aussi le monde dans lequel on est embarqué. La religion, c'est toujours un système, nous disait-il, d'organisation ou d'ordonnancement du monde. De sorte que si vous prenez le religieux au Moyen-Âge, si vous prenez le religieux encore au XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez de ce point de vue tout un système normatif qui vient baliser nos existences individuelles et collectives. Alors, il se trouve qu'à partir de la Révolution française, une tendance lourde s'affirme, qui trouvera une sorte d'acmé dans les années 1950-1960, qui vise à réduire le religieux à sa seule dimension cultuelle, à sa seule dimension privée, avec parfois cette idée que le religieux doit cependant servir les intérêts de l'État-nation. Et on retrouve ce que disait à l'instant François Mabille. À partir des années 1970-1980, ce qui caractérise le religieux, c'est que il entend faire cavalier seul, avec cette idée qu'il lui faut non plus se subordonner à l'État-nation, mais au contraire le dépasser pour mieux le reconfigurer à partir de la normativité propre de la religion. La loi de Dieu doit l'emporter sur la loi des hommes. Et c'est en ce sens qu'on peut parler, en effet, d'une repolitisation du religieux dans certaines fractions des champs religieux, mais comme je le disais tout à l'heure, nullement dans toutes les religions, puisque certaines, dans leurs fractions, demeurent attachées aux idéaux de la sécularité. C'est le premier point. Le second point porte sur votre deuxième interrogation, peut-on parler d'une spiritualisation du politique ? La réponse de ce point de vue est probablement positive. Cette idée que le politique aujourd'hui, un peu sur tous les territoires, tente de se réassurer en faisant référence à des ressources de liens, à des ressources de sens offertes par les communautés religieuses. Il ne faut pas évidemment considérer que le politique accepte sa subordination aux religieux. Nous sommes dans une situation bien plus complexe, fondée sur des jeux d'affrontement entre la polarité religieuse et la polarité politique, de sorte que j'aime assez parler d'hybridation de la scène politique aujourd'hui. Cette idée que le politique fait usage ou tente de faire usage des ressources du religieux, mais toujours en essayant malgré tout de considérer, de marquer sa souveraineté dans le monde tel qu'il va. Nous sommes donc confrontés à une situation qui est une situation très délicate, où le religieux tente de pousser l'avantage, où le politique, tout en utilisant les ressources du religieux, tente de réaffirmer sa propre souveraineté. C'est ce qui rend parfois le monde dans lequel nous sommes embarqués aussi illisible.
Alors, situation délicate. Roselyne Létron, quelle place pour la laïcité dans ce que vient d'évoquer Philippe Portier ?
Je crois que la laïcité a parfaitement sa place, notamment si on se situe dans le temps long, on s'aperçoit que l'idée même de laïcité est quand même le fruit d'une recherche de la paix entre les religions. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, l'idée, c'est que le principe de laïcité était là pour mettre fin à des querelles religieuses qui ont en quelque sorte empoisonné la France pendant plusieurs siècles, depuis les guerres de religion, et on trouve, je dirais, l'amorce du principe de laïcité dans l'édit de Nantes, qui implique une certaine neutralité dans certaines fonctions déjà. Et donc, en ce sens, je crois que la laïcité est effectivement une réponse à ces conflits entre le politique et le religieux. Maintenant, ça n'est pas la seule. Et le dialogue religieux peut aussi être choisi par différents États qui vont, au contraire, préférer une relation, j'allais dire, communautaire, c'est un mot qui n'est pas le bon, mais disons avec des interlocuteurs de représentants de chaque religion, pour construire, j'allais dire, une vie politique qui implique une approche religieuse et un respect des convictions religieuses de chacun. Et donc, on a un conflit entre ces différents modèles actuellement, dont on ne sait pas exactement à quoi il va parvenir. Ça, c'est clair.
Entre le modèle américain et le modèle français, je reste quelques instants sur ce modèle français pour rappeler à nos auditeurs qu'il y a un débat en France actuellement sur le thème « Comment faire vivre l'esprit de la loi de 1905 en 2019 ?» Loi de 1905, séparation Église-État. C'est un sujet de division chez les intellectuels au sein de la société française. La question de la laïcité et plus spécifiquement de la place à accorder à l'islam dans la société. Tout cela demeure finalement l'un des principaux objets de clivage et on n'en est pas sorti. sortie, Roselyne Netron ?
Non, on n'en est pas sorti, mais il faut reconnaître que il y a dans le débat beaucoup de discours qui visent en fait à faire une, comment dirais-je, une description de la loi de 1905 qui est parfois un peu surprenante. Je veux dire, d'abord, il faut constater que contrairement à ce qui est dit ici et là, la loi de 1905 a formidablement évolué depuis 1905. Elle a été modifiée à plusieurs reprises et surtout, la jurisprudence l'a fait évoluer. C'est-à-dire que dans l'état actuel du droit, aujourd'hui, par exemple, on peut financer des lieux de culte musulmans sans avoir besoin de modifier la loi de 1905. Or, c'est un des sujets qui est les plus discutés actuellement sur le fait que la loi de 1905 serait aujourd'hui dépassée, inapplicable, etc. Non, la loi de 1905 peut très bien être vivante avec une communauté musulmane, avec une liberté de culte tout à fait reconnue à cette communauté musulmane. Donc en fait, derrière cette contestation, il y a une contestation beaucoup plus profonde qui, d'ailleurs, provient de tous les radicalismes religieux dont on parlait tout à l'heure, et qui vise au contraire à une, je dirais, une remise en cause du principe de la séparation et du principe, non pas tant de la laïcité, mais de sa mise en œuvre qui est la neutralité. Et donc, en réalité, je dirais, derrière la revendication musulmane, entre guillemets, il y a une revendication beaucoup plus large. Mais si on regarde la loi de 1905, elle est suffisamment bien écrite et suffisamment souple pour permettre des interprétations qui, d'ailleurs, ont eu lieu.
Philippe Portier.
Pour aller dans le sens de Roselyne Netron, à propos de la laïcité française, sa clé de voûte, comme le disait le Conseil d'État, c'est en effet la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Le problème, c'est que la laïcité ne se résume pas au texte même de la loi de 1905. Elle a fait l'objet, tout d'abord, d'un certain nombre d'adjonctions dès 1907-1908. Nous avons des lois qui viennent en modifier en partie la substance. Et puis, surtout, nous avons des réceptions qui sont à la fois des réceptions jurisprudentielles et des réceptions pratiques qui viennent reconfigurer le cadre dans lequel nous entretenons la relation entre l'État et les religions. De sorte que moi j'aurais tendance à dire, si vous voulez, que nous sommes passés d'un monde qui était marqué par une laïcité de séparation. La République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte, comme le dit l'article 2 de la loi de 1905, un monde un peu différent où existent des interactions, des interpénétrations beaucoup plus nettes entre les Églises et l'État. Et on retrouve ici le thème que vous évoquiez tout à l'heure de spiritualisation ou de respiritualisation du politique. Cette idée que le politique désormais fait accueil plus volontiers qu'auparavant à la dimension publique du religieux, en y ajoutant cependant, depuis les années 2000, des éléments de surveillance, de contrôle des cultes que peut-être la laïcité originelle n'avait pas envisagé à ce point. Je dirais donc qu'il y a à la fois une publicisation du privé et une privatisation du public dans la société contemporaine française, qui correspond en effet à ce que vous évoquiez tout à l'heure quand vous parliez à la fois de politisation du religieux et de spiritualisation du politique.
François Mabille, quelques mots sur la religion catholique. Le pape a une prétention à une certaine souveraineté universelle. Qu'est-ce qu'il en est de cette universalité, de cette souveraineté, de l'autorité du pape ? En 2013, mais il y a tout de même 6 ans, donc le pape François s'est vu décerner le titre de personnalité la plus influente de la planète. Est-ce que ce serait aujourd'hui encore le cas si on posait la question ? Quel regard portez-vous sur la place et la portée de l'action du pape à l'échelle internationale ?
Ma personnalité la plus influente, je laisse aux journalistes le choix de leur qualificatif. Personnalité très médiatisée, oui. La singularité du souverain pontife, elle se lit dans le fait qu'il se dit tout à la fois chef d'un État et chef spirituel. Donc on retrouve là les catégories anciennes du temporel et du spirituel. Mais dont on voit bien aujourd'hui, à travers toutes les crises que traverse l'institution catholique, que cette dimension étatique est aujourd'hui remise en cause, notamment d'ailleurs sur la question du droit et de son propre droit et de sa capacité à réguler en interne un certain nombre de problèmes, effectivement. La position du pape, son discours qui se veut universel, sont de toute façon remis en cause ou questionnés depuis longtemps. Je pense à un de nos collègues, Marcel Merle, qui, dès les années 80, soulignait que la parole du pape qui se veut universel était déjà très interpellé par la multiplicité des situations et la difficulté à tenir une seule parole pour des chrétiens, des catholiques en l'occurrence, très diversement situés dans toutes les régions du monde. J'ajouterais que depuis l'élection de Jean-Paul II, on voit sans doute plus facilement qu'autrefois à quel point l'origine, la culture des papes successifs pèse sur leur propre interprétation du monde, leur propre façon de se situer sur la scène internationale. Jean-Paul II était indéniablement polonais, il s'en est revendiqué et ça se lit dans ses discours. On voit bien également à quel point l'origine culturelle et intellectuelle de Benoît XVI pouvait peser. Et dans un certain nombre de prises de parole publiques de Bergoglio, on remarque bien qu'il est argentin. Alors très souvent, ces Thierry Ferrer nous disent « Ah, il faut interpréter tel discours en se souvenant qu'il est argentin. » Et donc là, vous avez une parole populaire ou vous avez des expressions qu'il faut bien situer. Oui, mais en les situant, on les relativise et on voit que ces prises de parole sont moins universelles qu'il n'y paraît.
Alors, Roselyne Létron, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Après ça, on parlera d'Amérique latine.
Je crois que nous avons deux systèmes normatifs. C'est-à-dire que la papauté a toujours revendiqué un système normatif qui serait en fait un bloc de compétences totalement imperméable par rapport aux États. C'est-à-dire qu'il pourrait régir son propre système de normes, à la fois sur le plan des mœurs, sur le plan des sanctions, etc. etc. Or, aujourd'hui, d'une certaine manière, ce système, il existe toujours, mais il est formidablement remis en cause. Il y a un problème de crédibilité. On pense tous à ce qui s'est passé en 2013 en France avec la prière publique organisée par le primat des Gaules de l'époque, je crois, disant quelque chose à propos de la loi sur le mariage pour tous, disant « la loi du Parlement, ça n'est pas Dieu le Père ». Eh bien si, précisément, à l'intérieur de l'État, cette parole n'est pas audible. Et donc le problème est là, c'est que il y a actuellement quelque chose en termes normatifs qui apparaît comme peu audible. C'est exactement la même chose pour les poursuites et la non-dénonciation des prêtres pédophiles. Le fait de dire ça relève du droit canon et uniquement du droit canon, ça n'est pas audible dans l'État. Et donc on a ce problème qui existe d'un système normatif qui semble tout à fait, j'allais dire, en dehors du temps.
Alors très rapidement, baisse d'intensité de l'universalité de la souveraineté du pape. Philippe Portier, pour terminer, comment expliquer la montée de l'évangélisme alors en Afrique, on n'a pas le temps de le développer, mais puisqu'on parlait du pape François, né en Argentine, en Amérique latine.
Alors, il y a en effet, depuis les années 1970 surtout, et on retrouve les points chronologiques que nous avons signalés, une très forte progression de l'évangélisme en Amérique latine. Je voudrais vous donner un chiffre simplement. Nous attendons les résultats du prochain recensement brésilien. Vous savez qu'au Brésil, nous pouvons interroger, contrairement à ce qui se passe en France, nous pouvons interroger les Brésiliens sur leurs appartenances religieuses. Dans les années 1970-1980, 90% des Brésiliens se disent encore catholiques. Ça n'est plus le cas lors du dernier recensement, il y a maintenant 5 ou 6 ans, que de 70% des Brésiliens. Où sont passés les autres ? D'une part, du côté de ceux qui s'affirment sans religion, ça monte au Brésil, mais ça reste dans des proportions extrêmement limitées, surtout du côté des évangéliques. Et de ce point de vue, vous touchez en effet un point tout à fait important. Alors, on peut dire, si vous voulez, que la doctrine et le mouvement évangélique se sont imposés au Brésil à la faveur, d'une part, d'une décrédibilisation de l'Église catholique, c'est un premier élément, et puis d'autre part, de tout un système tout à la fois normatif et organisationnel qui a permis aux évangéliques de trouver une crédibilité que le catholicisme n'avait plus. Organisation de systèmes d'assistance sociale dans un pays où l'État est tout de même fragile, et puis une normativité qui vise à la fois à affirmer la responsabilité individuelle et à donner des sorties pour des populations pauvres à partir d'une sorte de reconsidération de soi, l'idée que par la responsabilité individuelle, on va pouvoir reconquérir sa propre dignité dans des situations sociales qui sont souvent, pour les Brésiliens, extrêmement difficiles. Et voilà très rapidement expliqué ce qui peut rendre compte de cette progression tout à fait importante et dont on attend encore des résultats plus nets lors du prochain recensement brésilien.
L'occasion peut-être d'en reparler. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Roselyne Lettron, professeure de droit à l'Université Paris-Sorbonne. Roselyne Lettron qui a dirigé l'ouvrage La laïcité dans la tourmente aux presses de la Sorbonne à paraître cette semaine. Philippe Portier, vice-président de l'École pratique des hautes études et membre du groupe Société Religion Laïcité au CNRS, et François Mabille, chercheur statutaire également au groupe Société Religion Laïcité au CNRS et co-directeur de l'Observatoire international du religieux à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.